rencontres avec des jeunes réalisateurs, critiques de films, chroniques, interviews en tout genre. Le sous-marin s'installe au centre des congrès d'Angers du 20 au 24 janvier pour le festival Premier Plan. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Campus Angers pour une semaine très spéciale à l'occasion du festival Premier Plan. Toute cette semaine, nous sommes installés dans le hall du Centre des Congrès pour une émission enregistrée de 16h à 17h et donc retransmise à 19h. Nous vous ferons partager nos sentiments sur la compétition, la température ici, nous recevrons des réalisateurs. Toute cette semaine donc, nous réunissons nos forces et l'équipe du sous-marin fusionne avec celle de Cinequanon et d'Artichaut. Wow. J'ai donc aujourd'hui le plaisir de partager les micros avec Thibaut et Martin. Bonjour.
Bonjour.
Et Gwen, bonjour. Le festival Premier Plan, c'est donc 10 jours de cinéma à Angers, une compétition de premiers courts et de premiers longs métrages de réalisateurs européens, 6 hommages et rétrospectives, mais aussi une collaboration avec le Beijing First Film Festival, des expositions, des lectures de scénarios, des tables rondes, bref, 10 jours riches et variés autour du 7e art. Notre première invitée de la semaine est Alice Douard, bonjour.
Bonjour.
Vous présentez votre troisième film, Extra Systole, dans la catégorie des films d'école. J'ai pas écorché le nom du film.
Non, c'est ça, Extra Systole.
Merci d'avoir accepté notre invitation dans le sous-marin. Alors, donc Extra Systole, c'est votre film de fin d'études à la FEMIS, en département réalisation.
Ouais, exactement.
Je vais raconter un petit peu l'histoire. C'est l'histoire de Raphaël, donc une jeune fille plutôt réservée qui débarque à Paris pour une classe prépa. Et là, elle tombe sur une prof très charismatique, Adèle, interprétée par Laetitia Deutsch. Une prof qui va quelque peu la troubler. Avant toute chose, Alice Douard, peut-être un mot sur le titre du film, Extra Systole. Qu'est-ce que ça signifie ?
Alors, Extra Systole, c'est une arythmie cardiaque, en fait. C'est-à-dire que le cœur s'arrête et quand il repart, il donne un grand coup. Donc, on a l'impression que... d'un coup il bat vite et d'un coup il bat plus. Voilà. Et l'histoire de ce titre, c'est que moi, quand j'écrivais le scénario, je me suis mise à avoir ça. Et quand on m'a diagnostiqué ça, je me suis dit, ah, extra systole, c'est assez cool comme mot. Du coup, ce serait un bon titre. Et je trouvais que ça fonctionnait bien avec l'idée du film. Parce que la jeune fille qui tombe amoureuse, c'est pas seulement un emballement. Et donc, le cœur se met accéléré comme quand on tombe amoureux en général. Là, la prof souffle le chaud et le froid, et donc un coup ça s'emballe, un coup ça la refroidit tout. Et voilà, et donc on est sur une arythmie vraiment, et je trouve que voilà, le titre veut dire arythmie et correspond à l'histoire du film.
Alors à la fin du film, on s'en rappelle plus épanouie qu'au début. Est-ce que cette rencontre, c'est un peu un rite de passage pour elle ?
Oui, c'est-à-dire que cette jeune fille, elle arrive de province, elle vient à Paris. Et Adèle l'initie non pas à la littérature comme elle l'attendait, mais à la ville d'abord, en lui faisant faire des exercices photos, des exercices sonores dans la ville. L'initie à une littérature un peu plus subversive que celle qui devrait être dans les programmes dont dit Pocagne. Et l'initie, sans le vouloir ou en le voulant, à la sexualité en fait.
Vous êtes bordelaise d'origine, je crois.
Oui.
Est-ce que c'est un peu une part autobiographique dans ce film, votre arrivée à Paris ? Est-ce que ça raconte un peu ça ou...
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que sur le côté débarquer à Paris, pas savoir quand il y a des métros, pas savoir où sortir, comment rentrer. Enfin, le côté un peu de la ville qui est à la fois hyper attirant, hyper repoussant. Enfin, en tout cas, très très effrayant, quoi. Qui est vraiment un espace à conquérir. Ça, c'était pour moi important dans le film. Et donc, on se déplace beaucoup. Il y a beaucoup de lieux qui sont filmés dans Paris. Donc il y a cette part-là, et puis la part de faire sa place au sein d'une école, ça c'est un peu mon parcours aussi en fait.
Thibaut et Martin, vous avez vu le film, vous sortez de la projection, est-ce que vous
Exactement,
avez
ouais.
des réactions, des questions ?
Alors toi Thibaut, vas-y en premier peut-être.
Je sais pas, c'est un peu trop frais peut-être.
Pas tout de suite, pas tout de suite.
Ouais, je pense qu'on est un peu trop à chaud. Ouais.
C'est votre film de fin d'études à la FEMIS. Est-ce qu'il y a des contraintes particulières pour les réaliser ? Comment ça se passe, en fait, ces films de fin d'études ?
Alors, la contrainte, c'est qu'on a un budget qui est donné et qu'on ne peut pas étendre. Donc, forcément, ça réduit le nombre de jours de tournage. On ne peut pas tourner pendant un mois. Donc, ça implique une durée de film, voilà. Mais j'aurais pu faire un film de 10 minutes. Là, en l'occurrence, c'est 35. Moi, j'ai un peu poussé, tourné un peu plus que prévu. Aussi, parce qu'on a la chance, quand on fait des courts-métrages à l'école... d'avoir plein de techniciens bénévoles puisqu'on est tous dans la même école et qu'on travaille ensemble C'est-à-dire qu'un film qui coûte 10 000 euros, en vrai, si on, enfin, en fait, il en coûte plutôt 50, voire un peu plus si tout le monde était payé. Et ça, c'est vraiment un luxe de se dire on travaille avec des professionnels, mais on est dans le même bateau d'apprentissage, donc, on peut faire des films avec ces budgets-là, quoi.
Et en termes de délai de tournage, ça s'est passé comment ? Ça se fait sur votre temps d'études, en fait ?
Oui, nous, en réalisation, on tourne notre film de fin d'études entre l'été, entre la troisième et la quatrième année, pour ensuite avoir jusqu'à Noël pour le post-produire. Et ensuite, on enchaîne sur l'écriture d'un long métrage. Voilà, donc on a tourné pendant l'été. Moi, j'ai tourné 15 jours en juillet, puis enchaîné avec le montage à partir d'août, en fait. C'est un moment où, c'est pendant les études et sur le temps des vacances qui n'existe plus vraiment, en fait, quand on est à l'école.
Juste un mot sur le casting. Laetitia Dolch, donc, qui interprète Adèle, on l'a vu cette année dans la bataille de Solferino. Vous la connaissiez avant ? Vous l'aviez rencontrée avant ou,
Moi, je l'avais vue dans des courts-métrages avant, et notamment celui de Justine Trier, qui a fait la bataille de Solferino et qui avait fait un court-métrage qui s'appelle « Vilaine fille, mauvais garçon » et que j'avais trouvé vraiment formidable. Et quand j'ai rencontré Laetitia, c'était assez évident. Contrairement au rôle de Raphaël, donc c'est Mathilde Poimero qui l'interprète, que j'adore aussi, mais que j'ai mis longtemps à trouver. Laetitia, ça, elle est venue assez vite, c'était évident, quoi.
Alors, c'est votre troisième film et c'est votre premier à premier plan, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que ça représente quand on sort de la FEMIS d'être programmé à premier plan ?
C'est formidable. Enfin, quand on apprend qu'on est sélectionné, on est hyper content parce que d'abord, c'est une reconnaissance pour le film et pour l'équipe et pour les acteurs aussi qui ont tourné bénévolement. Mais aussi parce que ça veut dire que potentiellement, on en fera un autre peut-être plus facilement parce qu'on a une visibilité sur le premier et ça nous place dans une certaine catégorie quelque part. Donc c'est vraiment encourageant. Et puis quand on a deux festivals donc de catégorie 1 comme celui-ci, ça aide aussi financière. Ça ouvre des aides financières pour le long métrage auxquelles on n'a pas accès avant. Par exemple, si je veux demander une aide en région pour mon long métrage, sans ces sélections en festival, parce que le film est aussi à Clermont-Ferrand, maintenant, avec ces deux-là, j'ai une aide financière potentielle de plus. Voilà, donc c'est très important. Et puis, les rencontres qu'on fait ici, des futurs, peut-être, collaborateurs, des techniciens, des producteurs et des financeurs.
Vous étiez déjà venu au festival à Angers ?
Non, c'est la première fois.
Et vous y restez un petit peu ?
Oui, je reste 4 jours.
Et dans les rétrospectives qui sont proposées, est-ce qu'il y a des réalisateurs qui vous touchent particulièrement, qui vous ont influencé dans votre travail ?
Eh ben, Patrice Chéreau d'abord. Là, du coup, je suis arrivée ce matin, je suis allée voir son frère qui était projeté là juste avant. Et je trouve que c'est une mise en scène qui est à la fois très classique et très moderne et qui n'est pas maniérée comme sont beaucoup de films aujourd'hui. Et enfin voilà, Patrice Chéreau, ça fait partie des réalisateurs que j'adore et je suis très contente de pouvoir revoir des films en salle. Enfin, là, celui-là a été projeté en 35 et c'était très agréable.
Comment se passent les relations quand on a la FEMIS avec les autres écoles de cinéma européen, vu qu'on est dans un festival de cinéma européen ?
Nous, on a quelques échanges avec l'Allemagne et aussi avec la Pologne. Donc c'est super de pouvoir partager et de se montrer les écoles, de pouvoir se rencontrer et de se montrer les films. Puis après, de façon un peu plus large, nous, en réalisation, on a aussi un partenariat avec l'école qui s'appelle la FUC, qui est à Buenos Aires. Et donc on a fait un échange, on est parti 2 mois là-bas pendant le cursus pour tourner un film avec les étudiants de Buenos Aires. Bon, là en l'occurrence c'est pas européen, mais on essaye de je crois que les écoles essayent de communiquer de plus en plus en fait.
Vous allez voir les autres films en compétition dans votre catégorie ?
Oui.
Vous avez déjà vu peut-être ?
Non, je viens d'arriver et du coup ce soir c'est la première, c'est le premier programme, c'est le programme 1 de cette compétition, quoi. Je crois qu'il y en a 6 ou 7. Donc je vais découvrir ça toute la semaine.
Quels sont vos projets pour la suite après cette sélection au festival ? Vous parliez d'un long métrage ?
Oui, avant ça, il y aura un court métrage. On est en financement là-dessus. On espère tourner au mois de juin. Donc, ce sera un film avec Solène Rigaud sur une jeune fille qui travaille dans un péage en été.
Solène Rigaud qui participe à un film Tonnerre qui est sélectionné là, cette année.
Exactement, ouais. Tonnerre de Guillaume Braque qui est en compétition ici. Et le long métrage en écriture, mais ça, on est en début d'écriture, donc je pense qu'on a encore pour un an ou un an et demi.
Pour les auditeurs qui nous écoutent et qui aimeraient intégrer cette prestigieuse école qui est la FEMIS, est-ce que vous pouvez un petit peu nous dire votre parcours et puis des clés peut-être ? Parce que. C'est 5 personnes en réalisation par année, non ?
C'est 6.
Six.
Ouais. C'est un concours qui est difficile numériquement en fait. Il faut pas avoir peur de le présenter plusieurs fois, même si c'est un concours qui est très long. Enfin moi je l'ai passé deux fois. Mon parcours, c'est, je crois qu'il faut pas rentrer trop jeune dans cette école. D'abord il faut un bac plus deux pour la présenter, mais surtout plus on a fait de choses avant et plus on est fort aussi pour affronter. Faire cinq courts métrages en quatre ans. Et être le support d'exercice des autres élèves en images, en son, etc. Enfin, faut être. C'est quand même pas si simple en fait une fois qu'on est à l'intérieur. Et donc moi, mon parcours, c'est que j'ai fait deux ans de fac d'histoire et d'histoire de l'art. Après, j'ai fait une école qui s'appelle l'ESEC, une école privée de cinéma à Paris. Et après, j'ai travaillé à la télé pendant un peu plus d'un an en production. Voilà. Et j'ai passé le concours après.
Petite question, mais c'est par rapport à l'école justement, à la FEMIS. On se pose toujours la question, est-ce qu'il faut faire une école pour devenir réalisateur? Est-ce qu'on peut aussi se débrouiller un peu seul? Et concrètement, vous apprenez quoi? Et est-ce que pour vous, c'est utile? Est-ce que cette école, pour devenir ce que vous allez devenir, on espère, c'est-à-dire réalisatrice, mais...
Concrètement, en fait, c'est une école, par exemple, contrairement à la fac, qui est, où on ne fait pratiquement que de la pratique. Et à mon sens, pas assez de théorie, d'ailleurs. Je crois que des fois, on devrait un tout petit peu plus se revenir dans l'histoire du cinéma, mais... Ça, on le fait chez nous, quoi, entre nous, entre les élèves. Donc, beaucoup de pratiques, quoi. Encore une fois, on fait beaucoup de films, nos propres films, mais aussi on travaille sur ceux des autres, comme script, comme assistante mise en scène. Donc, c'est quatre années où on peut rater, on peut essayer des choses, et on a les moyens de le faire. Et ça, c'est vraiment un luxe.
Est-ce que vous touchez à tout, en fait? À tous les domaines du cinéma?
Alors, non. En première année, oui, tout le monde fait la même chose, et on fait du son, de l'image, du montage, etc. Et après, les trois autres années sont dans la spécialité dans laquelle on a présenté le concours. Le concours est différent selon les départements. Et il y a ça d'une part, et d'autre part, les rencontres qu'on peut faire, que ce soit les autres élèves qui sont ensuite nos collaborateurs, techniciens, et les professionnels qui encadrent les exercices et qui enseignent. On a l'impression de sortir un petit peu fort d'une connaissance de... Voilà, un petit peu du milieu, quoi, en quelque sorte. Mais on peut évidemment faire du cinéma sans faire la FEMIS, hein, évidemment.
Oui.
Je pense que ça accélère peut-être un tout petit peu la chose.
Ça peut ouvrir quelques portes aussi, je suppose.
Je pense que ça aide, quoi. Enfin, moi, en tout cas, je pense que je suis très contente et c'est un luxe d'avoir fait ça, quoi.
Comme ça, métier de réseau aussi.
Oui.
Merci beaucoup, Alice Douard, d'avoir été dans le sous-marin aujourd'hui.
Merci à vous.
Et bonne chance pour la compétition.
Oui, bonne chance.
Merci beaucoup.
Tout de suite, on va faire une première pause musicale. On va écouter Chili Bump avec Lost in the Sound.
Everyone enjoy the mics to punish void away from my lips. So track the beat, so I can bust my shit. I'ma spit it out, bottom to the top. Whether the crowd wanna get up, get out, follow me or not. This day you're gonna keep singing. Each night the pain's so mellow. I come in dark for shadows. Hello, hello for tomorrow. Trying to lead a better life, dog. What a fella gotta do to get a tight jaw. Beg in order to get a bit of cheddar like Bob. Scheme on whoever's bit of bread I might rob. Get it right. I use my little head and fight hard. Hell is always round the corner where the weather's like fog. I don't wanna study, be a clever white star. I wanna write.
fight songs, life won't spare the right card. Where the mic, y'all, cause my pen is solid. I make many songs with the money in my petty wallet. Made an album, plenty love it and plenty want it. But I don't know anyone that's ready to spend the damn penny on it. Hoping I can hold with holding pressure. Homies tell me, hold my head up, I can barely hold together. Holding my hands out for scraps like a local beggar. I'm broke, I'm fed up and my shitty goes a pretty hopeless fella. To make me feel like a failure. Not believing what I do. Fuck you all if they tell ya. Lonely with a wolf and all walking around. Talking to myself, feeling lost in the sound. Cause
life brings me down in dreams of
Vous êtes bien dans le sous-marin sur Radio Campus Angers. Cette semaine, nous sommes donc installés dans le hall du Centre des Congrès pour le festival Premier Plan. Et tout de suite, vous écoutiez Chili Bump. Je le disais en intro, le festival, c'est certes une compétition, mais aussi des hommages et des rétrospectives consacrées à Robert Bresson, Lars von Trier, Patrice Chéreau, Bo Vinderberg, Denis Podalydès et au thème de la métamorphose. Et pendant ces 5 jours, l'équipe de Ciné Qua Non et Gwen également s'arrêteront à chaque émission sur l'une des rétrospectives. On commence aujourd'hui avec Lars von Trier et je vous laisse donc la parole.
Merci Tiffen. Thibaut, toi qui as écrit tes petites fiches comme un très bon élève, très studieux, tu vas peut-être pouvoir commencer à nous en parler.
Donc Lars von Trier, réalisateur danois, peut-être celui qui parle le plus à ceux qui assistent de premier plan dans notre génération, on va dire,
ouais.
plus contemporain. Il s'est fait connaître dès son école de cinéma, avec des courts-métrages comme on a pu les voir hier soir. Ensuite, c'est le Dogme 95, donc prendre le contre-pied un peu des blockbusters anglo-saxons qui débarquaient sur les écrans.
Le Dogme 95
Alors, le Dogme 95, je te coupe la parole pour y rebondir. C'est un mouvement qui est apparu donc, en 1995, et donc Lars von Trier est à l'origine de ce mouvement avec Thomas Winterberg, qui a fait Festen aussi. Et lui, Lars von Trier, a réalisé Les Idiots. Et ce mouvement, c'est en sorte... une sorte de nouvelle vague, mais danoise.
Un vœu de chasteté, ils appellent
voilà,
ça.
Voilà, c'est un vœu de chasteté qui est donc un 10 commandements que doivent respecter le réalisateur. Le premier commandement que aucun ne va faire, c'est ne pas signer les films. Le deuxième, c'est aucun artifice, des décors naturels et surtout caméra à l'épaule. Ensuite, il y en a plusieurs, mais je ne vais pas tous les énumérer.
D'accord.
Bref, c'est un contre-pied à tout le cinéma américain, notamment comme tu disais, Thibaut.
Voilà, et même les films qui sont pas estampillés du dogme sont toujours influencés plus ou moins. On a pu voir, c'était samedi je crois, Breaking the Waves, toujours avec une influence du dogme, même s'il n'est pas présent dedans. Donc voilà, rétrospective, c'est la chance de revoir des films comme celui-là, donc, que j'avais pas vu. C'est vrai que c'est toujours un décalage entre le choc visuel avec une réalisation magnifique et une histoire toujours un peu déviante. Avec là, on a une passion dévorante, quelque chose de très, très malsain qui prend vraiment aux tripes.
Oui, et d'ailleurs, la volonté de Lars von Trier, c'est d'abord d'hypnotiser le spectateur, c'est lui-même qui le dit, et de travailler sur sa psyché et... en fait, de l'envoûter. Et d'ailleurs, à chaque projection, il voudrait que le spectateur soit 3 minutes dans le noir avant chacune de ses projections. Bon, ce qui n'est pas fait pour la plupart des cinémas, pour cause mais en tout cas, voilà, c'est à chaque fois, c'est de mettre face à des situations qu'on ne peut pas contrôler, et même les personnages qui figurent ça ne peuvent pas contrôler eux-mêmes. À chaque fois, on a des personnages qui sont complètement fous, on peut dire. Par exemple avec Breaking the Wild, avec Bess qui est schizophrène, mais en même temps ce qui est bien aussi, c'est la manière dont il peut renverser les situations, les déplacements de situation. Je vais pas spoiler la fin de Breaking the Waves, mais on peut le voir dans plein de films.
Voilà, après, donc, quitte à pousser un peu la chose trop loin, qu'on a pu le voir dans Antéchrist, qui avait choqué un peu à l'époque avec les scènes un peu trop crues, un peu trop sanguinolentes.
Oui.
Et comme on s'y attendait un peu avec Nymphomaniac, là, le dernier sorti, et au final de ce côté là ça fait un peu plus simple là. Même s'il a des qualités, c'est vrai que pour la subversion...
Ensuite...
Ça fait un plat, pourquoi ? Parce que c'est pas assez subversif ?
Par rapport à ce qu'il était vendu, c'est pas un problème en soi qu'il manque de, qu'il soit pas assez subversif. Est-ce vrai qu'il était vendu comme le gros film choc, et est-ce vrai qu'on va peut-être devoir attendre la deuxième partie
qui sort le 29 janvier et qui est en avant-première jeudi, qui sera présentée par Charlotte Gainsbourg.
Tout à fait.
Et voilà.
Il y a une dimension. Vous allez me dire ce que vous en pensez.
Ouais.
Que je trouve importante dans l'œuvre de Lars von Trier, c'est le côté mystique, ouais, et entre le sacrifice et le sacré.
Oh oui, ouais,
on est toujours très proche. Elle se sacrifie, le personnage dans Brooklyn Mauvaise, et il y a un côté aussi sacrifice.
Martyr,
ouais. Résurrection. Parce que bon, on va pas dévoiler la fin.
On va pas aller
le voir. Mais il y a toujours ça. Il y a ça aussi dans Antéchrist, évidemment.
Ouais.
Tout est dans le titre aussi. Et on retrouve ça dans l'Infomaniac. Il y a toujours souvent chez lui, cette bascule entre le corps et l'esprit, et entre le sacré et le profane.
Bah c'est surtout un jeu sur la morale aussi, qui est tout le temps là, même dans Les Idiots du Dogme 95. Savoir jusqu'où on peut se positionner en tant qu'individu par rapport à. Bah, je pense que la plupart de ces films, c'est des films assez politiques. Pas dans le sens où ça va raconter ce que c'est que la politique, mais dans le sens où c'est la politique du corps. Comment on s'avance, qu'est-ce qu'on dit et qu'est-ce qu'on fait. Et je crois que Les Idiots, c'est un des films pour moi qui m'a le plus marqué de Lars von Trier pour ça. Ensuite, allez le voir, je ne sais plus quand est-ce qu'il passe, mais c'est un très bon film.
Et du coup, on a aussi la chance, donc, comme je le disais, de pouvoir revoir les courts-métrages. Oui. Ils sont au nombre de 4 ou 5, je crois. Bon, ce qui aurait été pas mal, je pense, de la part de l'équipe de Premier Plan, c'est d'expliciter un peu le choix des courts-métrages, parce qu'on a une séance qui dure une heure et demie à peu près, je crois. Est-ce que ça s'enchaîne un peu comme ça, on voit pas trop le cheminement, mais c'est très intéressant. On a les productions 2 et productions 3 notamment, que j'ai trouvé très très bien, avec déjà un espèce de rapport de domination au sein d'un couple. Et ça m'a permis de voir aussi alors Image d'une libération, ce film de fin d'études. Alors on voit très bien donc le côté dommage à Tarkovsky avec une esthétique qui est vraiment magnifique. Au-delà de ça, par contre, l'histoire est vraiment un peu abstraite et c'est vrai que j'ai pas été très convaincu sur le
coup. Il me semble que le film avait quand même dérangé puisqu'il abordait le point de vue d'un officier nazi.
Ouais.
Et pour ça, à l'époque, c'était...
Mais toujours, toujours mélangé avec le mysticisme, comme on le voit à la fin, avec l'élévation du personnage vers le ciel, le sacrifice, comme Gwen l'a très bien dit.
Et tu as spoilé la fin.
L'élévation vers le ciel.
Martin, je crois que tu voulais évoquer l'enfance de Lars von Trier. Sauf si Thibaut, tu...
Ah oui, non, vas-y, évoque.
En fait, c'est plus par rapport à ses propos qu'il avait eu avant. Et je pense que déjà, j'ai commencé par dire que la plupart des films de Lars von Trier, c'est quand même un exutoire, c'est un personnage très angoissé. Il le dit lui-même. Et chacun de ses films traite de ses angoisses. Et bon, la plupart du temps, c'est quand même assez sexuel, faut le dire. Mais aussi sur la mort, sur l'individu. Et par exemple, Lars von Trier a toujours cru qu'il était juif, et un jour on lui a dit que son père était allemand, du coup il s'est cru une nazie. Par rapport à ça, il...
Merci d'amalgame.
Voilà, amalgame, et lui-même, c'est très mal prononcé d'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'est fait désigner comme persona non grata au Festival de Cannes. Mais il y a de ça là-dedans dans tous ces films.
Il y a le personnage à côté, quoi. On peut vraiment pas dissocier l'artiste.
Oui, on peut
de
pas. Voilà, on peut pas
et lui, en tant qu'individu, est aussi très provocateur, il en joue un peu. Peut-être un peu au-delà de ce qu'il faudrait, parce qu'en soi son cinéma parle lui-même, il n'a pas la nécessité de...
Et je pense que c'est un cinéma, il ne faut pas non plus être faut être dans la réflexion aussi en regardant ces films, parce que la plupart, je ne vais pas faire une critique hyper stéréotypée, mais c'est vrai que les gens vont voir de Lars von Trier parce que c'est scandaleux, et en même temps oui, certes, il y a des choses qui sont amorales, on peut le dire amorales, mais c'est aussi un cinéma qui réfléchit et qui propose des questionnements qu'on n'a pas forcément dans le cinéma de divertissement standard. Et pour ça, je trouve ça hyper intéressant. On rentre vraiment à l'intérieur de la tête de Lars von Trier. Et...
Mais on fait pas de bonne littérature avec des bons sentiments. Je pense qu'on fait pas de bons sentiments non plus avec des bons sentiments.
Oui.
Et il y avait, je voulais juste ajouter quelque chose. Son actrice Martine, Martin, pardon.
Stacy
Martin disait quelque chose d'intéressant hier. C'est qu'elle, c'est quelqu'un sur un plateau qui ne dirige pas forcément beaucoup.
Non,
qui est, oui. Et par contre, elle disait, en revanche, c'est la marque aussi des grands cinéastes, c'est qu'il arrivait toujours à obtenir ce qu'il voulait de la personne. Donc, il laissait un peu de liberté à ses comédiens, et à la fin, au lieu d'être dirigiste, mais il obtenait toujours ce qu'il désirait de sa comédienne, de son comédien.
Ouais. Et d'ailleurs, c'est marrant que tu dises ça, mais En fait, il n'aime pas du tout les comédiens. Généralement, il n'aime pas le métier de comédien dans la plupart de ses films. D'ailleurs, c'est très mal passé entre Björk et lui pour Dancer in the Dark. Bon, je pense que vous pourrez suivre ça en regardant.
Mais en contrepartie, la plupart des comédiens qui dirigent ces grands films en ressortent primés. Oui. Que ce soit à Cannes ou
à chaque fois, je pense que c'est comme Kubrick ou Hitchcock, enfin bref, les grands si on veut, qui poussent leurs comédiens parfois à bout, quoi, pour sortir quelque chose, une émotion réelle, quoi. Et c'est vrai que ça.
Leur tourne, Martin.
Ah, leur tourne, bon, d'accord.
Juste une question pour conclure, vous qui connaissez si bien Lars von Trier, pour rentrer dans la filmographie, qu'est-ce qu'il faut commencer par voir?
Bah, là, on a l'occasion aussi, à premier plan, d'aller voir L'Hôpital et ses fantômes, la série qu'il avait réalisée dans les années 90. Mmh. Et c'est vraiment sympa, c'est peut-être plus dans le décalage, dans l'humour aussi.
Bah, c'est... En parlant d'humour, il y a aussi Le Directeur, qui était ce matin, mais qui est aussi un très bon film, qui est une comédie de Lars von Trier. Alors ça change totalement du genre, mais qui est une très très bonne comédie.
Ça peut être une façon un peu originale d'aborder sa filmographie.
Ouais, je pense. Voilà. Ensuite, en quelques films, je dirais Les Idiots, je dirais Breaking the Waves.
Ça fait beaucoup de films.
Ouais, peut-être. Mais c'est les plus intéressants, à mon avis.
Merci beaucoup, Gwen.
Mélancolia, moi je trouve qu'il a été. J'aime Mélancolia, moi.
Merci beaucoup.
On n'est pas nombreux, mais bon.
Pour ce petit mot sur Lars von Trier, donc on s'arrêtera sur un réalisateur mis en avant chaque jour. Tout de suite, on marque une pause avec Don't Crawl Home.
Forgotten how it feels with the carpet under my seat. It's the polyester fibers that wrap around my feet. Feels like home. Oh, 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 oh. When the cold shakes my bones, it's the rug that warms my soul. It's the textile to the skin. And the sensation alone feels like home. Brother, sister, father waiting at the door. It's so sweet, sweet. Makes me glad I'm only a stone's throw away. Makes me sad that others can't have it the same way. Oh, oh, oh. We'll be right back.
Vous êtes dans le sous-marin sur Radio Campus Angers. Nous sommes installés au centre des congrès pour le festival Premier Plan. Et nous avons le plaisir d'accueillir notre deuxième invité de la semaine, Louis Mathieu. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous présente pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Vous êtes président de l'association Cinéma Parlant et ancien professeur de cinéma au lycée Renoir à Angers. Alors, première question, Louis Mathieu. Qu'est-ce que ça représente pour vous, le festival Premier Plan, ces 10 jours de cinéma à Angers?
Alors, c'est un temps très fort, puisque d'abord, c'est un temps qui se prépare longtemps à l'avance. Dès le mois d'avril donc de l'année qui précède, nous commençons à nous réunir pour mettre sur pied une rétrospective plus particulièrement destinée aux scolaires. Cette année, c'est donc la rétrospective La Métamorphose. Et cela, c'est un travail qui donc se prépare très en amont. Et c'est quand même la recherche des films, c'est les discussions sur l'intérêt des films. Et donc, il y a cela. D'autre part, je m'occupe aussi de la soirée Film d'ici. Et là aussi, c'est quelque chose qui se prépare bien en amont. C'est-à-dire que dès le mois d'octobre, on commence à visionner les films qui se sont faits dans la région. Et là aussi, c'est quelque chose qui s'improvise pas.
Session souvenir, est-ce que vous pouvez nous raconter votre premier festival Premier Plan ?
Je me souviens, mon premier festival Premier Plan, c'était en fait la deuxième édition du festival, avec une rétrospective consacrée au cinéma allemand, je me souviens très bien. Avec, par exemple, c'était l'année où Angers était inondé, Anna Chigoula qui était obligée de venir au festival en marchant sur des planches assez étroites, voilà. Mais ça avait été quelque chose de très très beau parce qu'on avait mis en place un journal pour, un journal écrit par les lycéens. Et nous avions à l'époque un partenariat avec quelqu'un qui est très proche du festival, qui est un imprimeur. Et donc ce journal était imprimé sur papier glacé, très beau. Et je me souviens que ça avait été une aventure formidable parce que les jeunes arrivaient à poser des questions aux personnalités, aux grandes personnalités du cinéma que les journalistes n'auraient pas osé poser. Hein, par exemple, tout de go, ils étaient capables de demander comme ça, vous, combien vous gagnez? Bon. Et c'est vrai que, puis d'autres questions, quelquefois plus artistiques, quoi. Et c'est vrai que là, il y avait une franchise qui apparaissait, qui ressortait, et qui n'était pas dans tous les entretiens qui pouvaient avoir lieu sur le festival.
Alors, Cinéma Parlant, c'est une association qui travaille pour l'éducation à l'image. Premier Plan, c'est beaucoup d'écoles, beaucoup de scolaires. Ça, c'est important, cette dimension-là aussi pour vous, j'imagine.
Alors oui, parce que c'est quelque chose qui est indispensable à la réussite du festival. C'est-à-dire que c'est un festival profondément ancré dans le territoire. Et c'est vrai que c'est comme cela qu'il a la reconnaissance des collectivités publiques qui le soutiennent. Et c'est aussi, je trouve, ce qui fait l'atmosphère du festival. Là, je présentais tout à l'heure Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Quand on voyait l'ambiance de la salle, les applaudissements, les battements de main en rythme avec la bande-annonce qui est très entraînante cette année. Et cette ferveur du festival, elle est due en grande partie à la présence des jeunes. Donc vraiment, c'est important.
Moi, j'aimerais... Bonjour, Louis Mathieu.
Bonjour.
Pardon, j'aimerais revenir sur l'éducation à l'image parce que c'est votre cheval de bataille depuis très longtemps. Et ça recouvre quoi ça, l'éducation à l'image? Parce qu'on a l'impression que le salut aussi pour le cinéma, c'est d'envelopper un peu ces films avec des présentations, avec donc l'éducation à l'image pour tout public, mais particulièrement vous pour les jeunes. Vous pourriez nous parler un peu de ça parce que c'est quand même très important à Cinéma Parlant et à Premier Plan. Ça.
Alors, nous constatons ce que Bergala a appelé une sorte de rupture générationnelle, c'est-à-dire que nous avons une culture cinématographique héritée de l'époque des ciné-clubs, c'est-à-dire que les films d'avant les années 60, même d'avant les années 50, on connaît un petit peu, alors que les jeunes qui sont dans le festival, qui ont 15 ans, pour eux, leur connaissance du cinéma s'arrête à un an, deux ans, trois ans avant donc la date donnée. Et c'est un petit peu dommage parce que c'est vrai que les cinéastes qui font les films actuellement, ce sont des gens qui s'inspirent de cinéastes plus anciens. Il y a une continuité, une chaîne là, et c'est ça qui permet quand même de voir mieux en connaissance de cause, de mieux les apprécier, les films actuels. Donc cette espèce de transmission de la culture cinématographique nous paraît absolument indispensable. Et il y a un autre problème, c'est la question des images plus généralement dans notre société. C'est-à-dire qu'on est dans une société qui nous harcèle sur le plan de l'image. On est bombardé d'images tous les jours. Et je trouve qu'il y a une espèce d'usure des regards. C'est-à-dire que beaucoup de jeunes, mais nous aussi, ça nous atteint, hein, je ne veux pas se mettre en dehors, nous finissons par regarder avec une espèce de lassitude, d'air ennuyé, des images qui pourtant sont sublimes. Et il y a une sorte de démonétisation des images. Et cela, je trouve qu'il faut lutter contre cela. Il faut arriver à ce que le regard retrouve sa fraîcheur, sa jeunesse. Et pour cela, c'est de comprendre comment les images sont faites, que ce sont des images déjà, comment elles sont faites, et après aussi peut-être de voir comment soi-même on pourrait réaliser des images. Et
parce que ça fait aussi partie de vos formules, enfin de votre c'est voir c'est faire.
Voilà.
Et faire absolument. C'est voir.
Voilà. Voilà. Oui.
Donc avec des vous travaillez toute l'année avec parfois des tout petits.
Oui.
Aussi.
Oui.
Et qu'est-ce qu'on leur apprend à ces tout petits, parce que ça peut descendre jusqu'à 3. Non, 3, 5, non, un peu
non,
plus.
Non, quand même 8 ans, quoi.
8 ans.
À 8 ans, voilà, on intervient, oui.
Alors, qu'est-ce qu'on dit à un enfant, une enfant de 8 ans, par rapport à justement à ce monde d'images ?
Je pense à ce qu'on fait là dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, dans les temps périscolaires, où nous intervenons dans une école avec un parcours consacré à l'image et au cinéma. Eh bien, on leur apprend déjà le vocabulaire technique. Et c'est incroyable de voir comment, par exemple, à une projection de fin d'année, des gamins de 8 ans arrivent à discuter technique, emplacement de caméra, hors champ, synchronisation du son, construction de l'image. Bon, ils se sont emparés de tout ce vocabulaire qui est le béaba, je dirais, de à la fois la compréhension des images et l'écriture des images.
Louis Mathieu, vous donnez mercredi une leçon de cinéma sur la métamorphose. Donc ça va dans la programmation de premier plan, ça va de Frankenstein, un film de 31, aux enfants loups. Donc est-ce que c'est un thème intemporel, la métamorphose ? Est-ce que ça traverse tout le cinéma ?
Alors c'est un thème intemporel, effectivement, parce que c'est un thème aussi littéraire. C'est un thème qui n'appartient pas seulement au cinéma, il appartient à la littérature, à la peinture. Mais c'est un thème, je dirais, qui est plastique. Alors c'est bien sûr normal de parler de plasticité avec un tel thème, mais il faut voir comment, par exemple, aux États-Unis, dans les années 30-40, ce thème a été investi des préoccupations de ces époques-là. Je pense donc à Dr. Jekyll Mr. Hyde, là, qui vient de passer cet après-midi, cette question du mal, hein, du mystère du mal. Comment se fait-il que cela existe déjà, hein, pour cette Amérique puritaine, religieuse, etc. D'autre part, d'où ça vient ? Alors bien sûr, la réponse très simple qui a longtemps dominé, qui domine encore, il faut le dire, hein, aux États-Unis, et pas seulement, bon, c'est de dire que le mal, c'est l'autre. Non, c'est une réponse très simple et très réconfortante parce que nous, voilà, ça nous rassure. Bon, et en même temps, on s'aperçoit qu'avec les représentations des monstres, hein, que les Américains nous envoient, ils prennent conscience, et ça c'est une modernité, je dirais, une modernisation du thème, que le mal, non, c'est pas l'autre, c'est aussi en soi. Il y a un film qui a été déterminant dans cette prise de conscience, c'est Rosemary's Baby, où c'est une femme qui est sur le point de mettre au monde un être satanique, quoi. Bon. On voit bien que c'est pas si simple que cela, et que dans cette métamorphose, il peut y avoir une projection, en quelque sorte, de mentalité. Et c'est ça qui est intéressant à observer, c'est que la métamorphose vue, par exemple, en Argentine, je pense au dernier été de la Boyita, c'est tout à fait autre chose, quoi. C'est un thème extrêmement intéressant, c'est la question savoir comment, en fait, quelqu'un qui change peut déranger les autres. C'est-à-dire que les autres aiment bien nous situer à une place bien définie, et dès qu'on sort de cette place-là, ça met mal à l'aise, c'est pas tout à fait ce qu'on attend, c'est pas rassurant, c'est pas réconfortant, et ça pose problème. Et là, donc, un jeune garçon qui, en fait, n'est pas si garçon que ça. Voilà.
Et c'est dans le prolongement de ce que vous venez de dire, c'est intéressant, parce que Denis Podalydès aussi, donc il vient au quai avec un monstre, puisque c'est le Dr. Jekyll, enfin c'est le cas Jekyll, donc une adaptation du roman. Et il disait que lui, en tant qu'acteur, c'était aussi jouer, c'était aussi parler, enfin, oui, échanger avec la bête qu'il y avait en lui, avec le monstre qu'il y avait en lui. Et c'était aussi ça le jeu du comédien, en fait.
Très beau, parce que c'est vrai que c'est aussi, je trouve, au cœur de l'acte de création, qu'on est confronté à soi-même, à cette complexité de soi, et à se dire que le discours facilement manichéen que l'on peut tenir sur ces questions-là, il est simplificateur et il n'est pas juste, quoi. Et ça, c'est en quelque sorte l'ambition artistique qui permet de faire éclater ces préjugés et ces idées un peu faciles.
Et je trouvais qu'il y a quelqu'un, alors c'est pas trop le public d'ici, mais moi je trouve cette série très intéressante, c'est les Morts Vivants de Romero. Puisque l'avant-dernier volet, vous parliez tout à l'heure de la bête qui est à l'intérieur, là on est carrément là-dedans, les États-Unis avec ce puissant là qui se protège avec son petit monde, et ça vient, le mal là ronge de l'intérieur la société. Et il représente la monstruosité des Américains eux-mêmes, voilà. Qui ont produit une société qui va les englober. Un peu comme le monstre de Shakespeare.
Voilà, absolument.
La jalousie, ouais, qui détruit.
Absolument. Alors, c'est vrai qu'il y a des séries comme ça. Bon, bien sûr, Les Morts Vivants de Romero, c'est sublime parce que, en fait, les zombies, on s'en fout, comme dirait Jean-Baptiste Torré. C'est pas ça. C'est pas ça qui est intéressant. C'est plutôt comment on se représente soi-même face aux zombies, quoi. Et comment les zombies, on les représente. Quel regard on a sur eux, quoi. Bon. Et puis, il y a aussi cette série dont il y a un film dans le festival, Les Invasions de Profanateurs de Sépulture, hein, Body Snatchers. Bon. Et ça aussi, c'est remarquable parce que il y a aussi cette question de la crainte du communisme, de la crainte d'être insensible, etc. Et alors que l'insensibilité, elle peut être en soi-même aussi, hein. C'est-à-dire qu'on peut pas être sensible malheureusement à tout ce qui se passe dans le monde.
Thibaut ?
Oui, bonjour. Bonjour. Vous aviez donc parlé de votre travail autour du thème de la métamorphose. C'est un thème que vous avez choisi dès le début ou vous aviez eu d'autres alternatives à la base ?
Alors c'est tout un cheminement effectivement, et nous avions commencé par travailler sur le corps. On trouvait que par rapport à ce public auquel nous nous adressons, les adolescents, la question du corps est fondamentale puisque c'est un corps qui change par nature à cet âge-là. C'est une question qui les préoccupe. Et donc, on aurait voulu travailler vraiment sur cette question-là. Et puis, c'est apparu comme une question trop vaste. Et donc, il a fallu qu'on resserre un moment. Et donc, on s'est retrouvé avec ce sujet de la métamorphose. Avec le regret, parce que c'est vrai que la monstruosité, qui est un thème tout proche de la métamorphose, puisque un corps, en perdant sa forme et en retrouvant une autre forme, il y a un moment d'entre-deux où le corps devient monstrueux. Et ça, on s'est aperçu que c'était un thème profondément américain. Donc, on a eu une petite réticence, mais allez, on y va et on a tenté ça avec des films quand même assez différents les uns des autres, puisque il y a aussi Zelig, hein, cet homme qui se met à ressembler à son voisin dès qu'il est en contact, enfin à proximité de ce voisin. Il devient chinois à côté d'un chinois, français à côté d'un français. Et là aussi, c'est quand même intéressant parce que c'est un autre aspect de ce thème, cette sorte de mimétisme. Qui est bien connu, hein, dans nos sociétés, c'est-à-dire qu'on pour s'intégrer, on accepte de ressembler aux autres au-delà de ce que les autres demandent.
Parmi les rétrospectives, vous, Mathieu, il y en a deux qui peuvent sembler peut-être plus obscures aux auditeurs. Il s'agit de Robert Bresson et de Bo Widerberg. Est-ce que vous pourriez, en quelques mots, leur donner quelques clés et leur donner envie d'aller voir ces films ?
Alors, j'aurais surtout envie de parler de celle de Robert Bresson, si on n'a pas beaucoup de temps, parce que c'est peut-être la moins facile, la moins évidente, peut-être. Hein. Alors que Lars von Trier, je vois bien les échos des spectateurs, c'est génial, c'est absolument bon, fantastique. Bresson, j'entendais des gens qui sortaient, par exemple, de Lancelot avec bon, des interrogations. Et ce qui me paraît important chez Bresson, c'est, enfin, comme le disait Claude Éric, c'est l'influence énorme qu'il a eue à travers le monde. Hein. Bon, et on pourrait multiplier les références de cinéastes qui parlent de Bresson. C'est une nouvelle façon de voir le cinéma. C'est-à-dire que quand on voit un film de Bresson, je trouve que ça peut provoquer chez quelqu'un, chez un cinéaste, un basculement. Un basculement parce que c'est... une autre manière de concevoir le cinéma. Il a donc donné un autre mot, c'est pas le cinéma lui qu'il fait, c'est le cinématographe. parce que c'est un cinéma de création pour lui, alors que le cinéma qui se fait par ailleurs, c'est un cinéma de recopie, je dirais, de la réalité et de représentation. Un théâtre filmé avec des acteurs qui jouent forcément faux, qui jouent ce qu'ils ne sont pas. Donc forcément, il y a quelque chose de mensonger dans ce cinéma-là. Alors que lui, il veut présenter des êtres et les présenter tels qu'ils sont. Il les appelle ses modèles, comme un peintre, et il leur demande de lui prêter leur corps, leur voix, leur visage, leurs pieds, leurs mains. Et c'est avec ces éléments-là qu'il fait ses films, c'est-à-dire des films dans lesquels ce qui va advenir, c'est la présence de ces êtres-là. Et avec leurs vibrations, avec leur rayonnement, avec leur manière de s'imposer dans le monde, ou de ne pas s'imposer d'ailleurs. Quand on a préparé Bresson, Mandela venait de mourir et j'étais frappé par les commentaires sur le magnétisme de Mandela. Et voilà, c'est ça que essaie de capter Bresson, c'est-à-dire le magnétisme de chacun des êtres et d'en rendre compte.
Je crois qu'il disait « je vous invente tel que vous êtes ».
Voilà, absolument, très bien. C'est absolument cette formule-là qui vient donc du très beau livre qu'il a écrit et qui est... un livre inspiré dans sa forme par Pascal, le janséniste, parce que c'est un catholique janséniste et c'est quelqu'un qui ne transige pas sur une chose, c'est qu'il faut aller à l'essentiel. Les fioritures, on n'en a rien à faire, ça n'a pas d'importance. Et l'essentiel pour lui, c'est la pensée, bien sûr la pensée de Dieu, mais la pensée en général. Et tout ce qui peut nous arrêter sur ce chemin de la pensée, on n'en a pas besoin.
Avant de conclure, Louis Mathieu, est-ce que vous pourriez nous donner quelques conseils, et quelques conseils aux auditeurs également pour la journée de demain et puis pour toute cette semaine, est-ce qu'il y a des films à ne pas manquer ?
Alors, si on prend la journée de demain, j'ouvre mon programme, je trouve que, bon, puisque je n'ai pas parlé de Lars von Trier, demain matin, Mélancolia, c'est un film absolument sublime.
Et, voilà, vous faites plaisir à Gwen.
Cette musique de Wagner, par exemple, sur l'ouverture avec le visage de Kirsten Dunst, cette espèce d'ambiance de romantisme noir, voilà, qui nous transporte dans un tout autre monde, quoi, qui représente une étrangeté absolue pour nous et qui nous emporte, comme sait le faire Lars von Trier, à la fois, je dirais, intellectuellement, spirituellement et par nos émotions.
Une inquiétante étrangeté.
Une inquiétante étrangeté,
oui. Voilà,
j'allais dire cela.
Thibaut, si tu avais quelques conseils à donner aux auditeurs pour la journée de demain.
Alors, demain, le matin, moi, je vais aller voir Une femme douce de Bresson, dont j'ai de très bons échos, mais que je ne connais pas. À 16h, il y a Yos Novel qui concourt pour le Beijing First Film Festival, que j'ai vu juste avant l'émission et qui est très beau. Et pour la soirée, on a aussi, donc, comme je disais, L'Hôpital et ses fantômes de Von Trier, qui est une approche un peu différente de ce qu'on peut avoir. Et voilà, toujours les programmations officielles en parallèle, à ne pas manquer.
Si je peux me permettre de rajouter, une rétrospective qui risque de passer inaperçue alors qu'elle est remarquable, Bo Widerberg, demain par exemple à 19h30, Elvira Madigan, un film d'un romantisme total et d'une beauté immense, c'est la Suède l'été. Qu'est-ce que c'est beau la Suède l'été.
Gwen, tes conseils pour les auditeurs?
On va rester Lars von Trier, mais pour sa carte blanche. Et il a choisi, entre autres, La Dame de Shanghai. Et je pense que quand on fait un festival de cinéma, il faut toujours voir un Orson Welles, toujours.
Merci beaucoup Louis Mathieu d'avoir été notre invité aujourd'hui dans Le Sous-Marin.
Merci à vous.
Merci. Également aux auditeurs. Il est temps pour nous de lâcher l'immersion au centre des congrès à la technique. Aujourd'hui, c'était David et Elliot. Et derrière les micros, Thibaut Martin qui nous a quittés parce qu'il fait partie du jury étudiant et qui a dû aller voir une projection. Et Gwen, on se retrouve demain, même heure, même lieu, au centre des congrès dès 16h si vous voulez nous dire bonjour. Et à 19h sur les ondes, très bonne soirée et très bon festival. Allez, bisous.
Rencontre avec des jeunes réalisateurs, critiques de films, chroniques, interviews en tout genre. Le sous-marin s'installe au centre des congrès d'Angers du 20 au 24 janvier pour le festival Premier Plan.